on revient sur le dossier du révérend Jean-François Labrie de l'Église Interfoi, accusé d'avoir de médecine illégale, ce n'est plus ni moins ça, avec Marie-France Martel qui était sur place hier pour les plaidoiries.
Oui, oui, bonjour Steve.
Bon matin. Les plaidoiries donc qui se sont déroulées sur le cas de M. Jean-François Labrie. D'abord, allons-y avec les poursuivants.
Oui, en fait, la poursuite qui a été la dernière, Maître Joanie Poirier, à faire sa plaidoirie hier en après-midi, ça s'est terminé en toute fin de journée.
Longue plaidoirie, quand même.
Elle représente, en fait, le Collège des médecins, si on veut, qui poursuit le révérend Labrie. Elle est revenue sur le fait que l'exercice de la médecine s'est régi par un code des professions. On le comprend bien, c'est bien encadré. Il y a une exception au code qui est réservée aux prêtres, mais ce qu'elle a dit, Steve, c'est vraiment pour les bons samaritains. C'est-à-dire, dans des circonstances exceptionnelles, un prêtre peut venir en aide à quelqu'un, mais ça doit se faire de façon gratuite et vraiment dans un moment où c'est relativement exceptionnel. C'est pas le cas du révérend Labrie parce que lui...
C'est une situation, rappelé, là, pas un bureau avec du monde qui débarque.
Pas du tout. Et elle a rappelé que lui, il y a une demande ou il y a une contribution volontaire. Pas une demande, mais les gens peuvent laisser jusqu'à 80 $.
Hein.
Il y a un montant qui était suggéré. Alors, dans son cas, il y avait une rétribution. Et elle est revenue sur l'infraction qui est reprochée, entre autres, d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'il était autorisé à exercer la médecine. Donc, ce que ça veut dire, ce qu'elle dit au juge Éric Van Chestein, est-ce que les gens qui allaient consulter le révérend Labrie pouvaient penser qu'ils avaient le droit d'agir de la sorte? Parce qu'elle dit, lorsque vous arriviez, il y avait une salle d'attente, il y avait un bureau de consultation, un peu comme c'est le cas chez les médecins. Mm-hmm. Donc, elle dit, pour les gens, ça pouvait laisser penser que c'était un médecin, que ça pouvait être des actes qui étaient médicaux.
Et pour des gens vulnérables aussi.
Des gens qui avaient des problèmes de santé. Hein? Ce qu'elle dit, c'est que lorsque les gens arrivaient dans le bureau, tout de suite, ils lui disaient, par exemple, j'ai tel problème de santé. Et là, lui, il disait, bien, on va regarder ça. On va regarder ça. Donc, pour elle, pour la poursuite, de dire on va regarder ça, de faire des manipulations, c'est en quelque sorte un diagnostic, c'est pratiquer la médecine. Et un témoignage qui a été beaucoup discuté, Steve, lors des plaidoiries, c'est celui où, en fait, ceux des proches d'Annie Gélina. Cette dame-là, elle est allée consulter le révérend Labrie. Elle est aujourd'hui décédée parce qu'elle avait un cancer. Et quand elle est allée le voir, il lui aurait dit qu'il allait lui faire une opération à main nue, que c'est Dieu qui guérissait, qu'il lui avait fait une incision dans le ventre, mais que ça ne saignerait pas. Alors ça, c'est ce qu'elle a raconté à ses proches. Elle a dit qu'il lui avait sorti des masses cancéreuses du ventre. Elle a vu comme des masses noires qui pouvaient être de la terre, parce qu'on se rappelle que le révérend Labrie, il utilise de la terre sainte ou encore de l'huile pour faire ses manipulations, c'est ce qu'il a dit lors de ses rituels. Alors, à partir de ce moment-là, pour la poursuite, le fait d'avoir parlé d'extirper des masses cancéreuses, c'est un traitement. Donc, il doit être reconnu coupable de ça. Et dès que les gens arrivent pour lui expliquer leurs problématiques, il poursuit la consultation, comme je vous dis. Donc, pour la poursuite, ça ne fait pas de doute que Jean-François Labrie doit être retrouvé coupable d'avoir pratiqué illégalement la médecine.
Évidemment, l'avis de la défense ne doit pas aller dans ce sens-là,
Non, ce qu'a dit Maître Robert Brunet, c'est que jamais le révérend Labrie n'a prétendu être un médecin. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait, et ça, on vous l'avait fait entendre à de multiples reprises, il fait de la guérison spirituelle. Donc, un peu comme les activités du frère André à l'oratoire Saint-Joseph, ça, il nous l'avait dit, il est à l'écoute des gens, il leur prodigue certains conseils. Les touchés ne sont pas thérapeutiques, sont dans un sens que c'est plus au niveau de la religion. Et lui, ce qu'il a dit au juge, il dit, vous avez entendu en Jean-François Labrie un grand ministre qui est convaincu de la foi qu'il propage, il documente ses convictions à l'aide de la Bible. Il ne retire pas d'argent de son ministère, contrairement aux prêtres catholiques. Il l'a dit, l'Église Interfoi de North Attleigh, ce n'est pas une entreprise lucrative parce que le révérend Labrie ne touchait pas d'argent de ses consultations qu'il faisait. Ce qu'il a dit, c'est qu'il le faisait de façon bénévole, mais que c'est l'Église qui avait l'argent.
Une partie de la problématique, c'est que c'est tout comptant. Tout ça, c'est du comptant parce que les fameux dons se mettaient dans une petite boîte. Mm-hmm. On suggérait 80, c'est ce que tu nous mentionnais hier.
Ça s'est passé de 70 à 80 à travers les années. Okay. Ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a des gens qui laissaient 40 $, 50 $. Donc, c'était vraiment à la discrétion des gens.
Mais il y a de l'argent qui circule.
Il y en a qui circulaient, effectivement. Et les fonds étaient donnés à l'Église, les surplus distribués à des organismes de la communauté parce que la loi sur les organismes sans but lucratif, c'est ce que l'Église Interfoi devait suivre. Et il a dit, c'était donnée à la communauté. Et pour Maître Brunet, nulle part dans la preuve, ça a été démontré que Jean-François Labrie a fait de la médecine des Philippines. La médecine des Philippines, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est le Collège des médecins qui a vu un reportage sur des pratiques d'il y a plusieurs années, qui s'est basé là-dessus pour dire que Jean-François Labrie faisait ce genre de médecine-là qui consiste à opérer, si on veut, à main nue. Mais bon, là, ça va un petit peu dans le sens de ce que les témoignages ont dit de cette dame dont je vous ai fait état. Et l'accusé du révérend Labrie, l'avocat plutôt, dit que la poursuite n'a pas réussi à miner la crédibilité de son client. Parce que la poursuite, ce qu'elle avait dit aussi, c'est que le témoignage du révérend Labrie, il était rempli d'invraisemblances. Parce que lui, il n'a aucune note, il n'a pas de dossier de ses patients. Donc ça, la poursuite dit, ça doit être pris en compte. Mais ce que dit Maître Brunet, c'est que son client, lui, au contraire, il était très crédible tout au long de son procès. Il a répondu aux questions, il a dit ce qu'il en était. Donc, il y a plusieurs éléments qui laissent croire qu'il y a un doute raisonnable. Et il a qualifié de oui-dire les témoignages des proches d'Angelina parce qu'il dit, elle n'est pas ici pour venir raconter ça. Elle est aujourd'hui décédée, on vous l'a dit. Donc, il dit ça, c'est du oui-dire. Et lorsqu'on a du oui-dire, il ne faut pas en tenir compte pour lui dans ce procès-là.
Est-ce qu'il y avait eu des traces des conversations Facebook?
Il y avait eu des traces où elle disait à ses proches, effectivement, il m'a extirpé des masses cancéreuses.
Ça, mais ça a été présenté quelque part dans le procès.
Ça a été présenté, mais il est revenu. La thèse de Maître Brunet, c'est que cette femme-là, à ce moment précis-là, voulait tellement croire en quelque chose. Elle disait que le révérend Labrie lui faisait tellement de bien lorsqu'elle sortait de son bureau qu'elle voulait croire. Et là, il dit qu'elle était dans le déni, elle était médicamentée, elle était en psychose. Alors pour lui, ce témoignage là, en tout cas ce qu'elle a raconté à ses proches,
c'est pas valide
ou ça tient moins la route. Donc pour lui, Jean-François Labrie n'est pas coupable de pratique illégale de la médecine. Alors le juge Éric Van Chestein, qui a du pain sur la planche parce qu'il a beaucoup de témoignages à analyser, de la jurisprudence, il y a beaucoup de choses qui ont été dites de part et d'autre. Donc il veut prendre du temps pour réfléchir à la question, c'est pris en délibéré et il va rendre son verdict à la fin de l'été. Ça a été fixé au 9 août prochain, salle 5. Donc sans doute que ce sera très suivi encore une fois parce que tout au long du procès, la salle était pleine de gens qui viennent soutenir le révérend Labrie.
Rappelons-le, il y a encore 50 personnes par semaine qui débarquent là.
Tout à fait, mais semble-t-il qu'il est financièrement que c'est plus difficile pour lui à l'heure actuelle depuis toutes ces accusations là. Donc reste à voir, il disait même qu'il remettait en question son ministère à l'Église Interfoi, qui est en réflexion. C'est ce qu'a dit Maître Robert Brunet hier.
Mais pourquoi c'est plus difficile pour lui financièrement s'il n'en ramassait rien? Parce qu'on dit qu'il ne ramassait pas de l'argent de ça, lui-là.
Oui, effectivement. Est-ce qu'il continue de donner ses conférences? Parce qu'on sait que c'est les conférences de croissance personnelle.
On l'engagerait moins pour les conférences.
Qui lui donnait un salaire. Okay. Est-ce qu'il a dû diminuer ses activités? Ça n'a pas été dit.
Spécifié,
mais qu'il avait réussi à l'épuiser financièrement.
D'accord.
Voilà.
Merci Marie-France.
Bienvenue, bonne journée.
On va surveiller le dossier qui revient le 9 août prochain. On verra quel sera le verdict dans cette cause. Le révérend Labrie.